France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Arrivé au pouvoir en Italie il y a 3 ans, Giorgia Meloni n'a pas seulement déjoué les craintes, elle s'est imposée comme une figure de stabilité. À Bruxelles, elle joue les partenaires fiables sur l'Ukraine. À Washington, elle est reçue comme alliée. En France, une partie de la droite voit en elle la preuve que l'union des droites peut conquérir le pouvoir. Récemment, plusieurs titres de presse ont contribué à installer l'image d'une dirigeante pragmatique au point de faire oublier la flamme néo-fasciste toujours présente sur l'emblème de son parti. Alors que penser de cette normalisation? Est-elle logique ou dangereuse? Le fruit d'une tempérance ou de dissimulation? D'une adhésion ou d'aveuglement? Deux invités pour en débattre ce soir. Alain Caval, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes correspondant du Monde à Rome. Face à vous, Raffaele Alberto Ventura, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales, journaliste au quotidien Domani et contributeur dans la revue Esprit. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et deux titres de presse français pour commencer. Le Figaro le 25 septembre qui titrait « En 3 ans à la tête de l'Italie, le parcours sans faute de Giorgia Meloni ». La une de l'Express ensuite qui titrait quelques semaines plus tôt « Giorgia Meloni, la femme forte de l'Europe, immigration, budget, son vrai bilan, la France doit-elle s'en inspirer ?» Fin de citation. Alors est-ce que Meloni, issue d'un parti dit post-fasciste, a vraiment changé ou bien elle est devenue spécialiste en dissimulation, Alain Caval?
Non, je pense que sur cette question-là, il y a un vrai jeu de miroir inversé entre l'Italie et la France. Dans la mesure où on a en France une droite, un centre-droit et une extrême-droite qui sont très curieux de ce qui se passe en Italie, la coalition des droites que Meloni mène avec ces familles politiques-là. Et voilà, on y perçoit une crédibilité vis-à-vis des marchés financiers, puisque l'Italie a moins de difficultés à se financer, et une stabilité gouvernementale, mais qui agissent comme une forme de contre-exemple par rapport à ce qui est, par rapport à ce que traverse évidemment la France symétriquement à l'Italie. Et donc elle incarne l'idée selon laquelle l'union des droites produit de la crédibilité et produit de la stabilité politique. Dans une France où l'Italie est stigmatisée comme étant un pays structurellement instable et structurellement en difficulté vis-à-vis des marchés financiers et en difficulté vis-à-vis de son budget.
Donc, 3 ans, c'est énorme, hein, 3 ans à l'échelle...
C'est un des gouvernements les plus longs et les plus stables de l'histoire de la République italienne.
Raffaello Alberto Ventura, cette Meloni-mania, est-ce qu'elle est typiquement française, en tout cas, est-ce qu'elle appartient à un bord politique français particulier ou bien elle est largement partagée en Europe également?
Alors je pense qu'on comprend pourquoi Meloni séduit la droite française, ça a été très bien expliqué. Je pense que il faut comprendre que les résultats de Meloni, qui sont disons surprenants effectivement, du moins en termes de communication, sont liés à des caractéristiques très particulières de la politique italienne en général, de sa structure institutionnelle, mais aussi de la situation contemporaine. Première chose, Meloni qui s'était présentée comme une candidate de la disruption, voire du populisme, du souverainisme, de l'anti-européisme et de tout ça, est devenue une présidente du Conseil très institutionnelle, presque démocrate chrétienne dans sa façon de garder, disons, un double discours. Première chose. Deuxième chose, nous sommes en Italie, plus encore qu'en France, dans l'après plan de relance européen, donc voilà, qui influence aussi beaucoup des résultats convaincants et crédibles du fait d'une énorme disons, irruption de financements européens qui ont été faits. Donc ça fausse un peu la perception. Après, l'image qu'elle donne, bien sûr, elle est très convaincante à la fois pour une partie des électeurs italiens. Je pense que d'une certaine façon, elle a tiré profit de la leçon de Berlusconi, c'est-à-dire qu'elle a tiré de Berlusconi ce qui fonctionnait, sans en prendre ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, effectivement, il semble avoir trouvé une sorte de recette pour rester au pouvoir très longtemps, en tout cas, en Italie, et avoir aussi une image très crédible à l'étranger.
Sur le fond, Alain Caval, sur la politique publique et ses résultats, est-ce que vous diriez toujours que Giorgia Meloni mène une politique d'extrême droite?
Il y a des éléments dans ses discours, et dernièrement notamment, qui révèlent une forme de trumpisation de la rhétorique.
Mais dans le discours.
dans les discours. Et après, sur la politique, si on regarde sur les 3 ans, on a quand même un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens-là. On a un décret sécurité, notamment, qui est passé récemment, qui prévoit des peines de prison très lourdes pour des personnes qui bloqueraient une route, pour des personnes qui bloqueraient un chantier, sachant que les chantiers d'infrastructures sont des lieux de mobilisation politique en Italie très importants, qui provoquent en général un rejet et qui produisent de la mobilisation. Mais sur ce décret sécurité, par exemple, on voit les effets que ça a pu avoir. Le mouvement des jeunes pour le climat, qui était très actif au début du mandat de Meloni, a complètement disparu, par exemple. Et là, on a de nouvelles formes de mobilisation avec la question palestinienne. Mais ça, ce décret sécurité, c'est assez central. Ensuite, on a sur le plan sociétal un certain nombre de... Alors, il n'y a pas d'avancée, ça c'est certain. Il y a certains reculs, mais qui sont liés à une volonté de mettre en place ce discours identitaire conservateur qui porte notamment sur l'avortement qui est rendu encore plus difficile, sur des mesures hostiles à la parentalité, notamment des femmes qui auraient eu recours à la gestation pour autrui. Il y a cette question de la gestation pour autrui qui est montrée, enfin qui est désignée comme un crime, un délit universel à présent. Donc on a tous ces éléments. Et après, il y a une question identitaire et mémorielle qui est très importante, puisque Giorgia Meloni se refuse encore à ce stade, ce n'est pas le cas de toute sa famille politique, à se déclarer antifasciste, alors même que l'antifascisme est le fondement de la République italienne, qui a été créée après la chute du régime de Benito Mussolini. Donc il y a une forme de loyauté à ce passé-là, de loyauté à la radicalité, qu'elle n'a jamais abandonnée, et qu'elle continue à porter aujourd'hui, notamment dans un alignement à la fois rhétorique et idéologique, sur le monde trumpien en général.
Est-ce que vous diriez, Raffaele Alberto Ventura, que cette catégorie d'extrême droite est juste, pertinente, opérante pour comprendre l'action de Giorgia Meloni? Ce qui frappe, dans le fond, c'est aussi le hiatus important entre ses discours. Elle multiplie les discours aux facettes multiples, c'est le cas de le dire. Et dans le même temps, elle semble plus pragmatique dans l'action, dans les politiques publiques qu'elle déploie.
Oui, mais c'est ce qui s'est passé aussi avec le mouvement 5 étoiles. Il y a 5 ans, on avait une campagne électorale qui semblait devoir faire sortir l'Italie de l'Europe, et finalement, ça ne s'est pas avéré. Donc, je pense que Meloni, elle applique un peu la même méthode, qui est une méthode qui appartient peut-être à la politique contemporaine, qui va peut-être devenir universelle, qui est finalement de rassurer les électeurs sur un côté symbolique, voilà l'héritage du fascisme. Des politiques ou en tout cas des discours sur les migrations, sur les droits, disons, qui sont portés et qui peuvent coordonner, animer les électeurs, et puis des politiques qui sont certes à droite, mais moins à droite que celles qui ont été promises. C'est-à-dire que sur les politiques migratoires, on parlait en campagne électorale de bloquer les navires, voilà, et ça n'a pas été fait parce que effectivement la réalité intervient. Donc c'est là qu'on peut voir la caractéristique de l'extrême droite contemporaine, c'est-à-dire un double discours qui a le mérite peut-être d'être moins radical que les paroles qui sont prononcées, mais qui a le danger qui est celui de animer les émotions, les passions des électeurs, et qui pose des problèmes, parce qu'à chaque élection, finalement, les électeurs, ils vont demander plus, ils vont demander plus radical.
On loue par ailleurs, vous le disiez l'un et l'autre, les résultats économiques de Giorgia Meloni, baisse constante, régulière du déficit public, passé de 7,2% en 2023 à 3,4% en 2024. Même l'Express sous-titré, empêtré dans une impasse budgétaire, la France devrait s'inspirer de l'exemple italien, efficace et rassurant. Alan Cavall, est-ce que ces résultats économiques, ceux de Meloni, sont si édifiants ?
Alors, bon, sur la question du déficit, les chiffres sont là, c'est indéniable. Mais est-ce qu'une politique de réduction du déficit fait une politique économique? Je pense qu'on peut se le demander. Après, sur la question de la réduction du déficit, il y a des facteurs exogènes très importants qui sont entrés en ligne de compte et qui ont facilité, qui ont mis le gouvernement dans une situation plus facile.
Notamment les investissements européens,
on en parlait. Alors, il y a la question du plan de relance européen, absolument, à hauteur de 194 milliards à ce stade, qui est le montant le plus élevé de l'Union européenne, pour ce plan donc pan-européen. Il y a le fait que l'emploi, qui est très précaire, très mal payé en Italie, soit un peu meilleur, donc du coup ça a permis d'élargir un peu les assiettes de l'imposition. Il y a plusieurs autres facteurs exogènes. Et puis après, il y a effectivement un Didier de Rognier sur des services publics qui sont déjà en difficulté, sur la santé, sur l'éducation, notamment supérieure, et des problématiques en réalité structurelles qui sont celles de l'Italie depuis maintenant des décennies et qui n'ont pas été et qui n'ont pas fait l'objet de réformes réellement efficaces.
Je voudrais qu'on s'intéresse à Giorgia Meloni, la façon dont elle s'inscrit cette fois-ci dans une architecture internationale. Elle a adressé, il y a quelques semaines, un message à Marion Maréchal Le Pen, à plus particulièrement à un événement que celle-ci organisait. C'était le 20 septembre dernier. On écoute Giorgia Meloni qui parle un français quasi impeccable et s'adresse donc, dans le cadre de cet événement, à une partie de la droite française, d'extrême droite française.
Nous devons transmettre clairement le message que nous sommes prêtes, partout dans le monde, à assumer la responsabilité gouvernementale. Dans certains cas, comme en Italie, cela a été déjà produit. Dans d'autres, il faudra plus de temps. Pour certains, ce sera plus aisé, pour d'autres, très difficile. Et pour changer profondément l'UE, nous avons besoin de beaucoup plus de gouvernements conservateurs à nos côtés. Imaginez ce que nous pourrions réaliser avec un nouveau basculement vers la droite au plus haut sommet européen. Et le seul moyen d'y parvenir est de créer deux alliances. De Rome à Bruxelles, en passant par Paris et Madrid, la voie est celle de l'unité des droites et du centre-droite, comme Marion Maréchal les soutient justement depuis longtemps.
On dirait de l'intelligence artificielle, Alain Cavall. Rappelez-nous peut-être le contexte de ces propos authentiques, hein, bien sûr, tenus par Giorgia Meloni. C'était le 20 septembre.
Alors, le 20 septembre, Giorgia Meloni intervient dans le meeting de son allié Marion Maréchal, qui siège dans le même groupe qu'elle au Parlement européen, fait presque, de l'ingérence dans la politique française, puisqu'elle appelle les droites à s'unifier sur le modèle italien. Ce qui est très intéressant, c'est que cette prise de parole-là, on l'a pas entendu dans l'extrait, évidemment, puisque l'intervention de Madame Meloni était assez longue, est en partie consacrée à la mémoire de Charlie Kirk. Donc on connaît Charlie Kirk maintenant qu'on ne connaissait pas avant sa mort.
Cet influenceur américain assassiné il y a quelques semaines.
Quelques semaines, et en fait participe d'un grand moment rhétorique en fait pan-européen où on dit voilà, nous avons à droite, à l'extrême droite, puisque Charlie Kirk était évidemment un raciste assumé, un misogyne.
D'extrême droite lui aussi.
D'extrême droite lui aussi, Charlie Kirk donc à sa mort a déclenché, un discours, une rhétorique pan-européenne qui consiste à dire que nous avons un martyr, nous sommes des martyrs potentiels, nous sommes confrontés à une menace violente venue de l'extrême-gauche, une extrême-gauche par ailleurs fantomatique, spectrale, qui n'existe pas réellement, et nous devons donc nous unir dans les capitales européennes et également au-delà, dans ce que Mme Meloni appelle l'Occident, celui qu'elle veut rendre « great again », puisque c'est ce qu'elle dit également. Et cette logique d'unification des droites au Parlement européen sur ces thématiques-là également, et également une forme d'international, vraiment de ces droites-là, qui va de Milei à Trump, en passant éventuellement par l'opposition vénézuélienne, et évidemment les alliés de Mme Meloni en Europe. Et quel est le but, fondamentalement? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça chez Marion Maréchal? Parce que, fondamentalement, cette logique d'union des droites au niveau européen a pour but assumé de transformer l'Union européenne. Et c'est là qu'on parlait de pragmatisme et idéologie. Madame Meloni est pragmatique, mais son pragmatisme est au service d'une idéologie, est au service d'un programme de transformation sur le long terme, dans la mesure où elle a les capacités politiques aujourd'hui de durer, et qu'elle assume parfaitement pour dire qu'il faut une Union européenne différente, une Union européenne des nations, une Union européenne qui fasse, selon elle, moins mais mieux, et qui soit en réalité pas du tout l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Pas celle des fondateurs, en tout cas.
Vous êtes d'accord, Raphaël et Alberto Ventura, au fond, quelle est la visée, l'ambition de Giorgia Meloni lorsqu'elle intervient ainsi dans un meeting de Marion Maréchal Le Pen? Je pense que c'était peut-être pas sa visée à l'origine, mais elle se rend compte depuis 2-3 ans que tout le monde la regarde et tout le monde en voit cette recette comme convaincante. Et donc elle se dit, je peux être l'inspiratrice d'une droite européenne qui soit, entre guillemets, moderne, qui soit à la fois libérale, mais aussi qui n'oublie pas ses racines. Et alors ce qui est intéressant, c'est que justement ces racines, elles sont partout différentes, parce que l'héritage fasciste, ce n'est pas le même que l'héritage de l'Action française ou de la contre-révolution ou qu'en Amérique. Et pourtant, cette nouvelle internationale de la droite arrive finalement un peu à se comprendre. Alors parfois, elle ne se comprend pas, parce que quand il y a des votes européens sur certaines mesures, alors il y a tout de suite une sorte de rupture entre les intérêts nationaux. Mais quand même, il y a des sujets donc de convergence. Et c'est pour ça que je pense que plutôt que de se demander combien Mélanie doit au fascisme, effectivement, il faudrait se concentrer plus sur le futur, c'est-à-dire sur quel est cette nouvelle droite qui est en train de prendre forme autour, par exemple, de valeurs qui ne sont pas historiquement associées à la gauche, comme ce libertarianisme de la liberté de parole que Charlie Kirk incarnait, par exemple. Et je pense qu'on est en train quand même d'assister à quelque chose qui est en train de se construire, et Mélanie est sûrement une des actrices principales de cette construction.
Mais ce qu'on a peut-être du mal à saisir, Alan Cavall, c'est que, vous l'avez dit, hein, Giorgia Meloni prononce en Italie particulièrement des discours extrêmement polissés, tenus, ce qu'elle mène en matière de politique est considéré comme pragmatique. Pourquoi prendre le risque d'aller apporter son soutien à Marion Maréchal Le Pen, dont l'image, le placement sur l'échiquier politique est beaucoup plus radicalement à droite, voire d'extrême droite? Pourquoi prendre ce risque, au fond, de dévoiler une partie de son positionnement?
Il y a eu plusieurs Giorgia Meloni dans le temps, et il y a plusieurs Giorgia Meloni dans le présent, simultanément. Il y a eu la Giorgia Meloni, jeune militante de 15 ans, qui va sonner à la porte du mouvement social italien, parti fondé en 1946 par d'anciens dignitaires du régime mussolinien, notamment dans sa phase pro-nazi. C'est la Giorgia Meloni qui fait carrière dans l'héritier de ce parti, l'Alliance nationale, qui se modère et va vers le centre droit. Il y a la Giorgia Meloni qui remet la flamme, comme vous l'avez dit, sur le logo, et donc qui revient aux origines du mouvement social italien. Il y a la Giorgia Meloni populiste, à l'époque, comment dire, du Brexit 2016, anti-européenne, pro-Poutine, pro-Trump. Et il y a la Giorgia Meloni, présidente du Conseil, qui arrive en 2022 et qui, effectivement, crée cette image polissée, arrive à Bruxelles, dit « nous ne sommes pas des Martiens, nous sommes là pour collaborer avec Bruxelles, pour construire quelque chose ensemble ». Et on a une nouvelle Giorgia Meloni, selon moi, qui commence à apparaître aujourd'hui et qui, effectivement, qui n'hésite pas à user d'une très grande violence dans ses discours, notamment ceux qui s'adressent aux membres de son propre parti. Il y a un discours qui a été prononcé, d'ailleurs, le jour où Charlie Kirk a fait l'objet de cette cérémonie en Arizona politico-religieuse, dans lequel elle s'adresse à Juventud Nazionale, qui est le mouvement de jeunesse de Giorgia Meloni, dont des enquêtes ont montré qu'il était infiltré par des éléments néo-nazis et néo-fascistes, et auquel elle propose un récit quasiment apocalyptique d'opposition entre un « nous » qui sommes vertueux et un « eux » qui sont malhonnête et malveillant, et qui représente une sorte de gauche, cette gauche fantomatique que j'évoquais tout à l'heure. Donc diviser le monde en deux, construire une polarisation violente, évoquer la violence constamment, être dans une posture victimaire, se déclarer, visé par des tentatives ou des menaces d'assassinat, et produire un climat, en fait, d'une assez grande tension, notamment dans les semaines qui ont suivi la mort de Charlie Kirk.
Une réaction, Raphaël Alberto Ventura, vous souhaitiez
intervenir? Oui. Je voulais juste rappeler qu'elle avait été aussi, il y avait une autre Mélanie encore, c'était la ministre de Berlusconi, donc une jeune ministre, donc une personne qui a fait une carrière politique, ouais, disons, exemplaire, c'est-à-dire très jeune et très rapide. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, je pense que son succès, sa normalisation, lui concède aussi une certaine liberté de langage, parce que finalement, les gens se disent que son discours ne se répercute pas sur des politiques radicales ou excessives. Et donc, ce qui lui permet finalement d'avoir une certaine liberté de ton, qui est aussi liée à son personnage, parce que ça, on n'en a pas parlé. C'est un peu comme le personnage de Trump. Effectivement, on est même plus surpris de ce que Trump pourrait dire, d'une blague sexiste qu'il pourrait faire, parce que c'est Trump. Et la même chose pour Mélanie. Meloni, elle a ce style un peu de brute de décoffrage, un peu romaine, un peu sincère, qui fait que ce qui pourrait être choquant finalement semble être juste une forme de bon sens populaire, et du coup ça passe. Et du coup ça passe.
C'est une lente ouverture, mais ça c'est quelque chose qu'on observe absolument partout. Dans le monde démocratique, c'est une lente ouverture de la fenêtre de l'acceptabilité. Et c'est pour ça qu'il y a cette manipulation, cette instrumentalisation de la notion de liberté d'expression, dans une logique qui est parfaitement trumpienne par ailleurs, qui consiste à utiliser la liberté d'expression, à l'armer pour justement disqualifier son adversaire. Et donc l'antifasciste devient fasciste, le démocrate devient dictatorial, l'antiraciste devient raciste, et donc on arrive à inverser la réalité, et c'est quelque chose auquel elle participe aussi.
Son ombre plane sur vos propos, le président américain. Que pense-t-il justement de Giorgia Meloni? Il en a exprimé un avis, c'était le 17 avril 2025, des propos recueillis par France 24.
Everybody loves her and respects her, and I can't say that about many people.
Tout le monde apprécie, elle fait un excellent travail. Elle est devenue une amie. Nous avons une excellente relation. La relation entre l'Italie et les États-Unis est excellente. Nous avons parlé de commerce, de nombreux sujets durant notre déjeuner de travail. L'Europe a connu beaucoup de difficultés en raison de l'immigration. Et à présent, la Première ministre a pris des décisions dures, décisions difficiles sur l'immigration, et je l'ai félicitée par le passé. Je lui ai dit, j'espère qu'il y en aurait davantage comme vous qui prennent à bras le corps ce sujet difficile.
Comment qualifier, Raffaele Alberto Ventura, le positionnement de Giorgia Meloni à l'international? Elle est à la fois pro-atlantiste, hein, presque figure de proue des relations entre les États-Unis et l'Europe. Dans le même temps, elle est anti-poutinienne, ce qui a laissé entendre que sur la guerre en Ukraine, elle n'avait pas un positionnement d'extrême droite classique comme on pouvait le retrouver partout en Europe. Comment vous décririez justement ce positionnement géopolitique?
Alors sur la Russie, je dirais qu'elle a vraiment changé, disons le pouvoir lui a fait changer d'avis, son de positionnement, et donc ça c'est quand même, ça fait partie de son revirement, de sa normalisation.
C'est-à-dire décrivez justement ce mouvement-là.
Avant d'être au pouvoir, Meloni était le seul parti qui se positionnait à l'opposition, hein, du gouvernement Draghi, et sur plein de sujets comme la santé, le Covid, voire les relations internationales, il y avait beaucoup plus de un positionnement pas très clairement atlantiste, disons. Même si justement il y a une certaine ambiguïté qui va aussi en partie avec la politique italienne, hein, depuis longtemps. Il y a ce revirement, première chose. Il y a cette géopolitique berlusconienne d'une certaine façon qui est là aussi la leçon du maître. C'est une sorte de géopolitique de l'amitié. Tout le monde est ami, tout le monde s'apprécie sur le plan personnel, parce que c'est les êtres humains, c'est les personnes, c'est les relations amicales qui comptent. Donc ça aussi. Et dernière chose, effectivement, un positionnement sur par exemple Israël qui a été très timide de la part de Meloni, qui on est arrivé quand même à parler d'une nécessité de création d'État palestinien très très tard, mais qui est quand même arrivé au mois d'août 2025 à une ouverture dans ce sens. Mais finalement aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout la rente qu'elle tire de l'association avec Donald Trump, qui tire lui-même une rente de la fin des hostilités à Gaza.
Comment vous expliquez justement, Alan Cavall, cette déclaration d'amitié répétée par ailleurs dans le temps, exprimé par Donald Trump à l'égard de Giorgia Meloni?
Alors, déjà, je pense qu'il ne s'agit pas d'une alliance, mais il s'agit d'une forme de vassalisation. Et ce qui est vrai pour Giorgia Meloni est vrai pour l'ensemble de l'extrême droite européenne. Il faut se placer du côté de Washington, dans la perspective de Washington. Il y a une volonté du Parti républicain, ou en tout cas du monde trumpien, d'exporter en Europe, non seulement une rhétorique qu'on a évoquée tout à l'heure, mais des guerres culturelles. Et pour ce faire, il y a des alliances qui ont été forgées, des alliances, ou plutôt des relations de vassalité, qui ont été forgées entre le monde trumpien et les extrêmes droites européennes depuis le premier mandat de Donald Trump, voire même avant. Et Giorgia Meloni se place dans cette logique-là. Et donc, elle flatte l'ego de Donald Trump. Elle a fait un tweet assez intéressant, pas plus tard qu'il y a deux jours, où effectivement, elle a un post Instagram, elle a reposté un post de Donald Trump qui flattait ou vantait son livre, son autobiographie traduite récemment en anglais. Donc voilà, mais derrière ça, alors la remercier aussi d'avoir soi-disant rétabli le jour de Christophe Colomb aux États-Unis, élément identitaire important pour les Italo-Américains qui compte parmi son électorat. Hein. Et en fait, l'objectif de Giorgia Meloni, c'est de mettre en scène cette relation. Qu'est-ce que ça apporte ? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a appris que le département du commerce américain était sur le point de faire un droit de douane de 92% sur les pâtes italiennes. Alors, on remercie d'un côté Donald Trump de rétablir le jour de Christophe Colomb, on se gargarise du fait qu'il ait tweeté sur le livre de Giorgia Meloni, mais derrière, l'industrie italienne va mal, elle est assez dépendante, notamment en Lombardie, des exportations vers les États-Unis, exportations qui ont baissé les derniers chiffres de 21% dans une période assez récente. Et donc, franchement, on voit mal quelle est la contrepartie concrète de cette subordination à l'administration Trump.
On a parlé d'à peu près tout le monde dans cette discussion, sauf des Italiens eux-mêmes. Elle bénéficie, Giorgia Meloni, d'une cote personnelle de 37%, donc elle est relativement appréciée aujourd'hui par l'électorat italien, Raffaello Alberti Ventura. Comment est-ce qu'on l'explique, là aussi, de la très très bonne communication de la part de cette présidente du Conseil, ou c'est des résultats que les Italiens estiment positifs pour eux-mêmes et pour leur pays?
Je pense qu'il y a une bonne communication, et il y a aussi une communication qui sait faire profil bas quand c'est nécessaire, chose que Berlusconi ne faisait pas. Berlusconi était très clivant et il avait trouvé une recette pour finalement gagner les élections une fois sur deux, mais quand même, il perdait une fois sur deux aussi. Meloni, finalement, elle est moins clivante. Elle arrive parfois à passer inobservée, à passer inaperçue. Et d'une certaine façon, elle a sûrement trouvé une recette pour que son gouvernement reste stable. La gauche, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, en Italie, elle n'a pas une offre politique accomplie. C'est un problème des gauches peut-être assez récurrent. Mais du coup, ce qui fait qu'effectivement, la partie des électeurs, en Italie, ça suffit. Hein, un système proportionnel permet de gouverner avec les pourcentages de Meloni, quitte à justement faire des bonnes coalitions. Donc je pense qu'effectivement elle mobilise son électorat sans cliver outre mesure l'électorat de gauche.
Vous avez levé le doigt, Alain Cavalli.
Tout à fait, parce que je pense qu'il y a un élément très important. Donc effectivement, la question de l'alternative à gauche qui n'arrive pas à se construire, un mouvement social autour de la Palestine qui a été extrêmement suivi, des centaines de milliers de personnes dans tout le pays. On n'avait jamais vu ça depuis l'opposition à la guerre en Irak en 2003. Mais des résultats électoraux qui ne sont pas là pour la gauche, et qui a perdu deux élections locales, deux élections régionales, puisque les élections régionales en Italie n'ont pas lieu le même jour, elles sont séparées, qui a gagné en Toscane, mais qui est quasiment une région imbattable, donc pas de matérialisation électorale. Et l'autre élément très important, c'est qu'il y a une abstention qui est considérable en Italie. L'Italie était jusque dans les années 2090, un des pays en Europe où on votait le plus. Il y a une très très forte participation qui montait jusqu'à 85-90%. Aujourd'hui, c'est autour de 60 aux dernières élections de 2022, 64-65, et donc bon, c'est quand même toute une importante partie de l'électorat qui ne se reconnaît plus dans les partis. Et donc à partir de ce moment-là, l'électorat sur lequel elle doit intervenir est beaucoup plus réduit, et l'électorat de droite se déplace davantage que l'électorat de gauche en Italie. Donc il y a ces dynamiques-là aussi à prendre en compte.
Je vous cite, Alain Cavalli, un extrait d'un article que vous avez signé pour le journal Le Monde. La ministre de l'égalité des chances du gouvernement Meloni a critiqué les voyages scolaires à Auschwitz qui, selon elle, associent injustement l'antisémitisme à l'extrême droite. De quoi relancer le débat houleux sur cette question. Vous évoquez un peu plus tôt, Alain Cavalli, cette question de la mémoire centrale aujourd'hui dans les affaires méloniennes et la gestion du pouvoir de Meloni. Pourquoi cette affaire a-t-elle du sens, selon vous?
Eh bien, en fait, c'est une logique qui remonte assez loin. Je pense que Raffaele sera d'accord sur le fait que l'arrivée de la famille politique de Madame Meloni, qui vient d'une matrice fasciste, comme on l'a expliqué, l'arrivée de cette famille dans la politique mainstream, entre guillemets, dans la politique
classique, traditionnelle
italienne dans les années 90, elle se fait nécessairement au prix d'une remise en cause de la dimension antisémite, en tout cas à des excuses, des regrets de la part de cette famille politique vis-à-vis de cette dimension-là. C'est ce qui constitue le critère vraiment de leur rentrée dans la coalition de Berlusconi à l'époque, et de leur maintien à l'intérieur. Et en fait, cette logique-là, elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui, où on a une extrême droite qui a tout intérêt à développer le narratif selon lequel l'antisémitisme serait fondamentalement de gauche et serait inséparable du mouvement palestinien. Et donc, or, quand cette droite-là, qui vient de ce monde-là, touche à l'antisémitisme, elle se brûle. Parce qu'on voit bien que la ministre Roccella est allée trop loin. Elle est allée jusqu'à dire que...
Qu'on puisse dire, oui.
Voilà, que les visites quasiment à Auschwitz des scolaires italiens qui sont très nombreux dans un travail de mémoire très important en Italie depuis les années 90, entretiendraient presque une forme d'antisémitisme de gauche invisibiliserait un antisémitisme de gauche et associerait le fascisme à l'antisémitisme, ce qu'elle veut éviter, évidemment. Et donc, on voit bien une sorte de magma mémoriel dans lequel il se trouve et qui a provoqué une réponse extrêmement dure d'une personnalité très importante en Italie qui a 95 ans, qui est une rescapée du génocide des Juifs d'Europe, qui s'appelle Liliana Segre, qui est sénatrice à vie, qui est une figure morale très importante, et qui a réagi en disant « ça, c'est une attitude de personnes qui ont des squelettes dans le placard ». Et ça, c'était très très fort, notamment de la part de quelqu'un que la droite essaye par ailleurs d'instrumentaliser sur la question palestinienne, puisqu'elle est opposée à la désignation de ce qui s'est passé à Gaza comme d'un génocide.
Votre analyse sur cette affaire, Raffaele Alberto Ventura ?
Et là aussi, Meloni, elle s'insère dans un mouvement plus ample au niveau européen, qui est les débats sur la mémoire, notamment entre les pays de l'Est et de l'Ouest européens, parce que justement, il y a une tentative de passer de l'antifascisme à l'antitotalitarisme, c'est un grand sujet, mais qui du coup a à la fois une fonction qui voudrait être unifiante sur les mémoires partagées ou divisées de l'Union européenne, mais qui risque de porter à un effacement de la spécificité fasciste. Donc forcément, les partis d'extrême droite, ils en tirent un profit. Et Meloni s'insère dans ce mouvement qui avait lui aussi été initié par Berlusconi à son époque, et on voit justement cette usurpation de l'antitotalitarisme, hein, qui a aussi une mémoire en France importante, au profit d'une négation de l'histoire du fascisme.
En quelques mots, Raffaele Alberto Ventura, ce qui caractérise peut-être le mélonisme aujourd'hui, c'est la pluralité des discours dans un même moment, dans une même séquence.
Oui, je dirais. Moi, j'ai dit avant double discours, effectivement, mais comme vous dites, peut-être plus parce que comme on l'a dit aussi avant, il faut pas oublier des mouvements identitaires néofascistes sur le territoire qui sont là et que les mots active et mobilise. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention.
Merci beaucoup à tous les deux de ces éclairages. Alan Caval, correspondant du Monde à Rome. Raffaele Alberto Ventura, chercheur au laboratoire d'anthropologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales, journaliste au quotidien Domani, contributeur à la revue Esprit. Merci également à celles et ceux qui ont pensé et imaginé cette émission. Diane de Vancet, Stéphanie Villeneuve, Juliette Moellic, Antoine Héral. À suivre après le journal, l'anthropologie, une arme pour affronter le réchauffement climatique. On en discutera avec le grand anthropologue Philippe Descola.